Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 133, ici Richard Delhomme. Vous avez été nombreux à apprécier la première partie de la discussion avec Éric Lacroix. Eh bien, voici la deuxième. Et cette fois-ci, nous parlons de troubles gastriques, et oui, et également de l'importance du sommeil et de tant d'autres choses. Mais avant de lancer cet épisode génial, j'ai mis en ligne cette semaine une vidéo sur le tubeless avec un rappel théorique sur les avantages de cette technique, ainsi qu'un point complet sur le montage, mais aussi sur la réparation selon 5 niveaux de gravité. Et cette vidéo, si vous ne le savez pas encore, fait partie d'une série qui s'appelle Mission Gravelman, où je reviens un petit peu plus en détail sur la préparation pour le Gravelman Verdun-Paris le 11 novembre. Et je reviens à cette occasion sur les sacoches, le vélo, les vêtements, l'entraînement, etc., etc. Le lien vers la vidéo tubeless est dans la description de cet épisode, foncez voir, commentez et n'hésitez pas à poser vos questions. Et sans plus attendre, donc, Éric Lacroix. C'est prêt. Ok, attends, je remets ma liste de questions. Donc, comme je te disais, avant de repartir sur la longue litanie des questions que je t'avais préparées, la semaine dernière, on m'a écrit pour me demander conseils sur les troubles gastriques. Et fait intéressant du hasard, si tant est que le hasard existe, tu as beaucoup étudié là-dessus et tu as sorti un article là-dessus la semaine dernière. Alors, d'une manière générale, si on peut faire une grosse généralité, à quoi sont dus les troubles gastriques sur une pratique longue distance?
Alors, effectivement, il y a eu des recherches qui ont été faites et les recherches que je mettais dans l'article datent de pas si longtemps que ça, c'est-à-dire, on va dire, des années 60-70 dans le marathon, où on s'est rendu compte que sur des courses de, à l'époque qui étaient de longue distance, qui paraissent maintenant un peu dérisoires, il s'avérait qu'il y avait des troubles, on va dire, des mal de ventre, mais on ne savait pas trop le définir. Mmh. Et finalement, des recherches ont commencé, des recherches scientifiques ont commencé à être menées, notamment aux États-Unis. Et puis après, dans les années, on va dire, 2000, aussi en France, en métropole, notamment Denis Richer a beaucoup écrit là-dessus. Mmh. Et on s'est rendu compte que c'était non pas lié souvent à l'estomac, mais plutôt à l'intestin. Des problèmes intestinaux et notamment puisque notre intestin en fait il est connecté. Alors on dit à un moment donné, on l'appelle le deuxième cerveau. Pour moi, c'est, enfin, je vais pas dire que c'est une connerie, mais en fait on n'a qu'un cerveau et après notre cerveau a des appareils connectés. On est vraiment un peu dans l'intelligence artificielle, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on imagine il y a beaucoup de cellules nerveuses en fait dans notre cœur et dans notre intestin et finalement qui renvoient en fait des signaux au niveau du cerveau. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand on va faire un effort, il va se passer des choses effectivement. On va ingurgiter des choses qui vont se passer d'abord dans l'estomac. Il va y avoir des problèmes déjà au niveau de l'estomac, voire de l'œsophage. Et puis après, les problèmes vont être liés souvent aux problèmes intestinaux, parce que c'est là où tout se fait les échanges, en fait. Les échanges pour qu'on capte l'énergie, en fait, qu'on a mangé, ça s'appelle l'assimilation. Et pour résumer, c'est difficile de quantifier, pour l'instant encore vraiment, est-ce que c'est vraiment des problèmes d'estomac ou des problèmes d'intestin. Ce qu'on appelle le tractus haut et le tractus bas, ça j'ai pas mis dans l'article, mais je le redis et c'est une petite cerise un peu que je te donne, c'est-à-dire que on a souvent soit des problèmes de tractus haut, c'est-à-dire en haut, c'est-à-dire œsophage, estomac, ou des problèmes de tractus bas, c'est-à-dire l'intestin et évidemment pour les selles. Tu vois. Donc, les tractus hauts, c'est généralement, on va avoir des vomissements. Et les tractus bas, ça va être plutôt des coliques. Voilà. Ce qu'il faut, en fait, comprendre, c'est que déjà, le corps, il fait ce qu'on appelle une ischémie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'oxygène pour les organes digestifs. Parce que le corps a besoin de beaucoup d'oxygène déjà. Pour la survie, il va en avoir dans le cerveau. Et après, comme toi, tes muscles, bah, les muscles des jambes, puisque tu pédales ou tu cours, eh bien, voilà, il va y avoir une demande de plus en plus accrue. C'est comme une petite usine qui travaille et les mecs disent hey, on a besoin de charbon, faut envoyer. Voilà. Et finalement, beaucoup d'oxygène vont dans les muscles. Il y en a pour le cerveau et il y en a beaucoup moins. Et on peut aller jusqu'à moins de 10%, voire moins même, jusqu'à moins de 5% d'oxygénation en fait, des organes digestifs. Déjà, ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que ça travaille moins bien. Donc, si tu manges solide, par exemple, quelque chose de solide sans mâcher, bah déjà, ton estomac va devoir travailler. Et comme il est en peine parce qu'il n'est pas beaucoup oxygéné, ça va être compliqué. Après, le problème aussi, c'est que paradoxal, c'est que aussi, tu avales beaucoup d'air quand tu vas faire un effort. Plus l'effort va être long et avec des intensités et parfois élevées, bah, tu vas avaler quand même pas mal d'air, d'oxygénation, et tu vas suroxygéner aussi, finalement, l'intestin. Mais pas d'une manière, si tu veux, souhaitée, c'est-à-dire qu'il y a une hyper-oxygénation et ça peut perturber parce que l'intestin, lui, c'est un organe vraiment feignant. Et là aussi, tu viens le perturber. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité en fait, de l'intestin. C'est ce qu'on appelle comme ça, c'est Denis Richer aussi qui le mentionnait. Et la première chose, donc, je disais, c'est par rapport à l'estomac. C'est-à-dire, si on a un ingurgite, par exemple, trop de sucre d'un seul coup, il va y avoir une sorte d'osmolarité inverse. C'est-à-dire, l'osmolarité, c'est quoi? Tu mets un sucre dans une petite cuillère, tu le mets au-dessus du café, on l'a tous fait, eh bien, tu poses la petite cuillère progressivement, tu vas voir le sucre, il va hop, s'imbiber rapidement, c'est-à-dire que l'eau est attirée par le sucre à fond, quoi. Et elle est attirée par l'amidon et le glucose à fond. Et en fait, si tu fais la même chose en fait, en ingurgisant trop de sucre, bah, en fait, tu vas faire remonter l'eau des intestins. C'est là où tu vas avoir des problèmes de tractus haut. C'est ce qu'on appelle une osmolarité inverse qui a été vraiment démontrée en marathon par Perronet. C'est un chercheur canadien qui a démontré ça. C'est-à-dire cette osmolarité inverse. On voit qu'il y a des vomissements parce que on a finalement fait une osmolarité inverse. C'est-à-dire toute l'eau de l'intestin est remontée dans l'estomac. Et bien évidemment, ça fait un tractus haut et puis tu vas vomir. Et après, ben, ça renvoie de l'autre côté et ça te file la colique, quoi. Donc la première chose, le conseil, c'est finalement, quand on dit dans le long et les épreuves longues, qu'on soit en vélo, en course à pied ou en trail, et notamment en trail parce qu'il y a beaucoup de chocs, encore plus de chocs, c'est plus violent qu'encore en vélo, il faut y aller par petites doses. C'est-à-dire que dès l'instant, on met des grosses doses, très agressives, avec des choses solides et en grosse quantité, on voit bien qu'il y a moins d'oxygène. En même temps, si en plus c'est des choses sucrées, ben là, c'est la catastrophe, quoi. Et donc, c'est très, très délicat. Voilà. Et après, il y a d'autres problèmes qui se posent au niveau de l'intestin, effectivement, parce que, comme je te l'ai dit, comme il y a une hyper perméabilité de l'intestin, voilà, ça le rend, on va dire, c'est un organe qui est un peu ronchon et il va se révolter, quoi. Et donc, comme tout se fait de l'assimilation, bah, si tu n'arrives pas à amener des nutriments, des aliments, eh bien, bah, en fait, tu vas vite être en déficit. Et c'est la panne, en fait, qu'on appelle la panne de carburant, tout simplement. Voilà. Donc, je te résume un peu en gros et rapidement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et des nutritionnistes, comme Denis Richer, pour l'expliquer un peu mieux, et peut-être avec des éléments un peu plus scientifiques. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir des conseils derrière, c'est-à-dire amener des aliments et varier les aliments solides et liquides, et si possible, à un moment donné, en petite quantité dans la durée, quoi, quand on fait des épreuves. Voilà. Et éviter les éléments agressifs, notamment avec un index glycémique très élevé, quoi. puisque je viens de le souligner, ça va agresser l'estomac et il va y avoir une osmolarité inverse.
Donc, est-ce que également le côté, donc, comme tu l'as dit, manger en petite quantité, lorsque on prend des trucs qui ressembleraient un petit peu à du gâteau, est-ce que le mettre dans la bouche et diluer avec de l'eau et pour finalement faire une bouillie et pas avoir à mâcher, justement, comme tu l'as dit, donc petite quantité et également très tôt peut-être, pas attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures comme j'entends parfois, mais aussi peut-être commencer à s'alimenter très tôt, même si on est frais, qu'on n'en ressent pas le besoin.
Alors, si tu veux, je reviendrai quand même par rapport à ta question, oui, à quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que, comme je l'avais évoqué dans le dernier podcast, dans notre dernière conversation, on est 108 milliards, on est passé 108 milliards d'individus et on est tous différents. Et ce que j'avais évoqué aussi, c'est le fait de tester. Oui. Il faut, en fait, c'est le sport, s'entraîner, c'est pas que s'entraîner sportivement, physiologiquement et faire des gammes ou finalement des fractionnés ou des intervalles training. C'est aussi s'entraîner à s'alimenter. Pareil. Et ça, c'est des choses que j'avais évoquées dans certains de mes ouvrages, sur le trail notamment. C'est très très important de tester et de voir ce qui va nous convenir à l'entraînement comme en alimentation. Parce que si tu prends des choses qui ne conviennent pas, ça serait dommage de refaire l'erreur, de la reprendre, et notamment de la reprendre en compétition. Et c'est ce qui peut arriver, c'est-à-dire on peut mettre en place des routines, des habitudes, on appelle ça des habitudes, c'est-à-dire des mauvaises habitudes, qui induisent finalement des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux. Et ce que tu évoques, c'est-à-dire il faut tester, c'est-à-dire que tester, c'est tester des aliments liquides, des aliments solides, la bouillie, comme tu dis, etc. Pourquoi pas ? Après, il faut voir qu'est-ce qui va te convenir. Et aussi, le goût, aussi, c'est important, parce qu'il y a aussi une représentation, une prise de conscience aussi du goût qui peut amener un certain plaisir. Il y a une expérience scientifique qui a été faite. Le simple fait de mettre du goût sucré dans la bouche va réveiller certaines zones du cerveau et annoncer que finalement, ton organisme, il peut produire de l'énergie. C'est quand même assez fabuleux. Ça veut dire que on a quand même, voilà, on est très très connecté. En fait. Et ces connexions, on met de l'eau sucrée dans la bouche, on la rejette pendant l'effort, mais on voit qu'il y a un appel, si tu veux, du cerveau à produire de l'énergie. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que dès l'instant où tu mets des choses, t'apportes des choses qui vont pas convenir, ça peut être aussi terrible. Et moi, je pense que le maître mot, c'est une certaine frugalité dans l'effort long, la frugalité sur la durée. Voilà, pour moi, c'est primordial et testé.
Tu peux développer ce concept de frugalité ?
La frugalité, c'est que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ton corps, il est vraiment soumis quand même à entre guillemets, des efforts sur la longueur et il va fatiguer, on ne peut pas faire des repas, tu vois ce que je veux dire.
Tu t'arrêtes pas à manger une choucroute, quoi.
Ah, c'est un petit peu ça,
ouais. La vie.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui vont manger solide et tout va bien se passer pour eux. Peut-être aussi l'intensité de l'effort a certainement une répercussion aussi. C'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau qui va faire Paris-Roubaix en 6 heures, ça aura pas le même impact que quelqu'un qui le fait en 10 ou 12 heures peut-être, tu vois, parce que l'intensité de l'effort, elle est violente avec, tu vois, enfin, on l'a vu, hein, c'était magnifique d'ailleurs, mais peut-être que le gars qui va faire 12 heures, il pourra peut-être s'arrêter au troquet, manger un petit truc et repartir, enfin, voilà. Ouais. Et aussi selon l'individu aussi, suivant ses finalement, ses prédispositions génétiques, son épigénétique, ses habitudes d'alimentation, comment il assimile les aliments et tout ça. Donc là, ce que tu évoques, c'est une boîte de Pandore presque, tu vois, parce qu'on évoque un sujet qui est énorme, qui fait partie aussi de la pratique en elle-même. Hein. C'est un sujet que tous les gens sur le long, tous les athlètes, les cyclistes, etc., se posent à un moment donné. Alors en cycliste, il y a quand même cet avantage d'être un sport porté. Ouais. Donc, il y a quand même un peu moins de traumatisme.
Est-ce que avoir des vomissements ou après 4-5 heures, généralement, après avoir, sans avoir mangé finalement, parce que je l'ai entendu aussi, est-ce que c'est une forme d'hypoglycémie un petit peu sévère, de déshydratation, d'hypoglycémie un petit peu sévère, due globalement à une mauvaise alimentation ? Bah, forcément qu'une hypo, c'est une mauvaise alimentation, mais s'il y avait eu une prise d'aliments plus régulière, est-ce que ça ne s'évite pas aussi de manière très simple ? C'est symptôme d'arriver au bout et de vomir quand on arrive à 5-6 heures d'effort.
Ta question, elle est intéressante parce qu'on est, je l'évoquais tout à l'heure, désormais un peu dans une sorte d'intelligence artificielle. On est dans les data données l'index glycémique et la glycémie, c'est-à-dire là tu parles d'hypoglycémie. Par exemple, la société Super Sapiens a mis en place, je ne sais pas si tu connais, mais quelque chose pour finalement voir sa glycémie pendant l'effort. Tu vois, s'il est en dessous d'un gramme, au-dessous d'un gramme, etc., voir si on est en hyperglycémie. Et ça va être intéressant parce que finalement, des fois, il faut faire gaffe au ressenti. On peut sans doute avoir parfois des perceptions d'hypoglycémie alors qu'on n'y est pas du tout. C'est comme on peut, je l'évoquais la dernière fois, avoir la sensation d'être très haut cardiaquement, mais au bout de 6 heures, en fait, on est à 120 et on pense qu'on est à 160, mais c'est juste du ressenti parce que c'est le cerveau qui, lui, a envoyé des signaux comme quoi ton corps était fatigué et il a, en fait, pour la survie, il a modéré en fait, les organes. C'est-à-dire qu'il va les freiner parce que lui, qu'est-ce qu'il veut ? Le cerveau, c'est survivre. Donc, il va aller modérer l'activité du cœur, il va aller modérer l'activité de certaines cellules, etc. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que d'avoir des retours et ce qu'on appelle le feedback dans un effort pourrait être intéressant. Donc, Super Sapiens, l'étude, s'ils font des études avec le taux de glycémie, on va peut-être s'apercevoir que finalement, des fois, on est très haut, on a l'impression d'être en hypoglycémie. Alors qu'on pourrait quand même continuer à perdurer, peut-être prendre un peu moins ou s'alimenter différemment. Mais là, on dégage aussi une autre voie et qui est encore très complexe. C'est toute cette voie de lipolyse et de travailler ce qu'on appelle en low carb. C'est-à-dire s'habituer à s'entraîner en mangeant moins de glucides. Et ça, c'est ce qu'a fait, par exemple, Xavier Thévenard dans sa préparation de l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est-à-dire que on va, par exemple, la veille, on va pas manger de glucides la veille, pas de pâtes, pas de pain, etc. Le lendemain matin, on fait un petit déjeuner, on va dire protéines, lipides, tu vois, avocat, œufs, etc. Et on va aller s'entraîner. On emmène quand même une petite boisson avec un petit peu de glucose au cas où. Mais là, on va aller vraiment taper dans la lipolyse. Et on va faire 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et on regarde comment l'organisme. Et là, finalement, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher dans les lipides les substrats nécessaires pour fabriquer du glucose. Ça s'appelle la lipolyse. Quand on habitue l'organisme à ça, on a l'habitude de pas prendre trop de glucose, donc on va être moins agressif en fait, et on s'habitue aussi à avoir une glycémie basse en fait. Donc peut-être que Xavier Thévenard a une glycémie basse et il gagne quand même l'ultra trail du Mont Blanc malgré tout. Donc tu vois, faut être très très vigilant sur ce qu'on avance aussi.
Il l'a gagné cette année ou pas ? Je crois pas.
Non, mais il a gagné 3 fois d'affilée quand même. Il a fait 2013, 2015, je crois, et 2017, il me semble.
Est-ce qu'on arriverait à avoir c'est difficile, évidemment, tu vas me dire, ça dépend. La place de cette stratégie low carb dans sa performance, est-ce qu'il l'a maintenue cette année ? Et est-ce que, avec le résultat que ça a donné, est-ce qu'on peut estimer à peu près la place de cette stratégie dans son succès ?
Je pense que c'est plein d'éléments si tu veux, il faut aligner les planètes à un moment donné pour gagner. Comme quand on prépare un défi, comme quand on prépare sa course. Là, j'avais une conférence samedi justement sur le côté mental et l'émotion, mais j'ai évoqué le fait à chacun son extrême. C'est-à-dire que pour quelqu'un, faire peut-être 100 km de vélo, c'est extrême. Alors que pour l'autre, ça va être 1000 km dans des conditions de chaleur monstrueuse ou de froid, comme on a pu le voir. Il y a eu un projet qui avait été fait dans le froid. Mais Voilà, déjà, c'est la première chose, c'est à chacun son extrême. Et en fonction de ça, le corps va plus ou moins s'adapter. Mais dès l'instant où on lui met quelque chose, en fait, il est en permanence en train de s'adapter. C'est-à-dire que quelque chose qui fonctionnait va devenir une sorte d'habitude et de routine. Donc après, pour pallier et aller encore progresser, il faut aller encore plus loin parfois, c'est-à-dire s'adapter et rechercher de nouvelles choses. Alors, je dis ça parce que Xavier, en fait, qu'est-ce qu'il a fait de nouveau quand il a regagné la troisième fois, et on en a discuté, c'est il s'est, par exemple, désadapté du café, de la caféine. Il a arrêté de boire du café pour, après, au centième kilomètre de l'ultra-trail du Mont-Blanc, amener de la caféine, pour faire un effet boost, en fait. Mmh. Voilà. Donc, il s'est aussi désadapté de quelque chose pour, à un moment donné, refaire un effet boost. C'est intéressant comme démarche aussi. Voilà. C'est, en permanence, c'est du test, c'est des choses qui pour moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, comme on dit, faire quelque chose d'extraordinaire, un défi ou une épreuve extrême, c'est finalement le chemin pour y parvenir, c'est ça qui est vachement intéressant. Ouais. Au-delà de ça, c'est on y arrive, on fait l'événement, on souffre, on a de la joie, on a plein de choses, mais après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pour ça qu'on se met aussi en projet, c'est pour ça que les gens se disent « je vais me faire plaisir », c'est faux. C'est qu'ils se mettent dans un état émotionnel d'un chemin de projet. C'est une sorte de projet de vie et de projet voilà, à la fin. Ouais.
Bon, bah ça fera l'objet d'un épisode 3. Je vais te laisser tranquille pour le moment un petit peu. Mais on va en reparler parce que parmi les auditeurs et surtout dans notre petite communauté longue distance, il y a pas mal d'adeptes du low carb. Il y a quelques entreprises aussi vraiment axées là-dessus. Et c'est quelque chose d'à la fois très intéressant, d'aussi un petit peu effrayant, parce que c'est quasiment une remise en cause complète de notre mode de vie, notre mode alimentaire. Donc, c'est pas forcément évident, mais ça reste intéressant et de voir comment on peut peut-être l'adapter, comme tu l'as dit, avec un repas la veille et un petit déjeuner adapté. On en avait déjà parlé avec Jean-Yves Coupute quand on avait fait un épisode, on avait parlé du cas Christopher Froome. Et c'est un petit peu ça aussi. Comment est-ce qu'on est obligé d'aller dans une version extrême ou est-ce qu'on peut juste adapter certains trucs pour favoriser une adaptation? Donc ça, on en reparlera un petit peu et on le fera en tête-à-tête quand tu viendras voir tes parents à côté de chez moi.
Avec plaisir.
On est voisins, donc...
on peut aller même sur le versant, tu parlais de Christopher Froome, on peut aller sur les corps cétoniques, tu vois. Enfin, voilà, donc... On est là dans une autre configuration encore et de l'alimentation et de l'évolution de l'alimentation.
Pour ça, on invitera le médecin de la Jumbo Visma. Peut-être qu'il pourra nous en parler en rigolant. Qu'est-ce qu'on va rigoler ce jour-là? Ça va être bien. Oh, oui. Dans tout ce que tu as écrit récemment, tu avais dressé un parallèle et on en avait parlé dans l'épisode précédent, qui est finalement que l'humain est un trailer d'ultra-distance depuis les origines, finalement, parce que depuis les temps préhistoriques. Alors là, je résume parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la chasse aux dinosaures, malgré les apparences. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus et sur ce paradoxe assez cocasse que là, actuellement, on redécouvre depuis... disons 20 ans peut-être la longue distance, l'ultra longue distance, alors qu'en fait on a ça au cœur de nous depuis toujours.
C'est vrai que c'est une banalité de dire qu'on était des anciens chasseurs-cueilleurs. Après, il faudrait aller voir le livre Sapiens. Y a des bouquins qui sont sortis récemment justement sur l'histoire de cette génération de Sapiens. Et comme je te l'évoquais tout à l'heure, on a été plusieurs milliards d'êtres humains, et il y a une évolution du cerveau limbique qui après s'est transformé sur le cortex et on a évolué normalement en bien, sauf que au plus profond de nous-mêmes, même là, de notre organisme, il y a eu quand même aussi des choses qui ont évolué dans la vie, c'est-à-dire qu'on a aussi avancé sur la technologie et finalement on est devenu quand même assez sédentaire, assez feignant. On a laissé faire pas mal de choses entre l'invention de la voiture, l'invention de pas mal d'outils, l'invention d'énormément de choses et désormais de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est peut-être justement ce paradoxe qui nous pousse aussi à aller voir au plus profond de nous-mêmes notre transcendance, qu'on est fait quand même aussi des êtres bipèdes pour se déplacer, pour faire des déplacements et d'aller chercher autre chose que de rester assis en permanence sur sa chaise, quoi. Parce que, voilà, c'est à un moment donné, on sent bien que on n'est pas fait pour rester assis, à rien faire, quand bien même on travaille son cerveau, parce que le déplacement permet d'explorer le monde, permet d'explorer d'aller vers les autres, et ça fait partie de nos désirs aussi les plus profonds, qui sont de se connecter, de réaliser, de se réaliser à faire quelque chose, quoi. Donc, je crois que les déplacements longs correspondent aussi à une volonté de combattre finalement cette modernité. C'est assez paradoxal, mais pour moi, c'est un peu ça. Voilà.
De temps en temps, enfin, je sais pas si ça t'arrive, toi, mais notamment avec les athlètes pas en situation d'échec, mais qui rencontrent des difficultés dans leur pratique, on en entend parfois dire bon, bah, j'arrête, visiblement, je suis pas fait pour ça. C'est un petit peu relié à ce que tu viens de dire, finalement, qu'on a ça au plus profond de nous et qu'il faut juste refaire jaillir ces compétences qui sont peut-être vraiment très, très enfouies ou mal utilisées, mais que cet argument de j'arrête, je suis pas fait pour moi, bah, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai parce que, enfin, si on prend les écrits au niveau épigénétique, nos cellules, en fait, elles se reproduisent. Elles se reproduisent de génération en génération. Donc, nos enfants, voilà, on sont le produit de nous-mêmes et sont le produit de nos ancêtres. Donc, à un moment donné, il y a quand même dans nos cellules au plus profond de nous-mêmes des choses qui ont existé dans les modes de déplacement. Déjà, même nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, marchaient beaucoup plus que nous. Voilà. Et par exemple, si on voit l'île de la Réunion ici, les gens qui habitaient dans les cirques, voilà, marchaient énormément, marchaient beaucoup plus. Et d'un seul coup, est arrivé vraiment une société de consommation. Et même là, par exemple, à la Réunion, je prends l'exemple, mais ça a été en une vingtaine d'années une explosion énorme, finalement, du tout voiture. Et c'est peut-être aussi pour ça que justement les gens veulent aller explorer, parce que voilà, ils combattent aussi, ils veulent combattre la sédentarité, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, donc ça, c'est une recherche personnelle intérieure et parfois un hasard ou un déclic. Les choses arrivent des fois par hasard aussi. Et ça, c'est bien aussi d'ailleurs.
Heureusement qu'il y a ça, sinon ça serait d'un ennui. Parce que là, tu parlais d'intelligence artificielle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, peut-être. Ouais. C'est que autant la voiture, on peut la substituer. Ça peut être utile pour des trajets très longs, mais aussi on peut arrêter de l'utiliser pour des trajets moyens qu'on pourrait faire en vélo. Mais l'intelligence artificielle a quand même une capacité de calcul. Je crois qu'il y a quelques années, l'équivalent d'une intelligence artificielle était une opération mentale réalisée au même moment par tous les humains vivant sur la Terre. Et aujourd'hui, c'est largement plus que ça. Donc, il y a aussi quand même... L'AI a quand même une capacité qu'on n'aura jamais. C'est ça qui est à la fois terrifiant et génial.
Je suis... Effectivement, je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord. Moi, ce qui m'inquiète, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas la confondre après avec le versant émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir des capacités effectivement de calcul et de mental, mais après, ça ne remplacera jamais nos profondes émotions, même si on essaye de chercher tant bien que mal, justement, que l'intelligence artificielle, de faire des programmes sur les émotions. Mais la transcendance en elle-même, et la transcendance épigénétique, c'est ce que je te parlais, c'est là où je voulais en venir, ne remplacera jamais l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, nos cellules, elles ont une histoire. Ouais. Une cellule d'intelligence artificielle n'a pas d'histoire.
Voilà, bon, on peut annoncer l'épisode. On va annoncer l'épisode 4 sur la place de l'intelligence artificielle et ça va être, c'est vrai que ça, c'est un domaine totalement fascinant et tu vois, c'est surtout utilisé pour prédire des comportements et malheureusement, c'est les abus là où on les voit actuellement, c'est sur l'utilisation des algos pour les réseaux sociaux. Et d'une certaine manière, le comportement, il est extrêmement prédictible. Donc, et les émotions sont faciles à être générées, surtout, enfin, on le voit depuis 2 ans maintenant et même un petit peu avant. Et de cette manière-là, ouais, il n'y a pas d'émotion, quoi. C'est vraiment prédictible.
Donc, moi, j'apprends aux personnes, par exemple, dans la formation mentale, un petit peu à hacker leur cerveau. C'est-à-dire que justement, de ne pas tomber dans des routines qui sont des habitudes prises, qui pourraient être presque même générées par des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question pourquoi et pourquoi pas, etc. Et en permanence se questionner. Voilà, d'aller voir plein de secteurs.
Ça, c'est un truc, tu vois, aussi très intéressant que tu viens de mentionner. C'est qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de morning routine, de routine matinale, de se lever plus tôt à 5h30 pour lire un bouquin, pour méditer, pour faire des trucs comme ça. Et je comprends ça parce que ça permet de générer des habitudes et les habitudes permettent de générer des résultats. Mais en même temps, je trouve quand même dommage de s'enfermer dans des routines et dans des modes de pensée, dans des modes d'action, alors qu'au contraire, des fois, laisser un petit peu le chaos s'installer, c'est aussi se donner l'occasion de découvrir des trucs auxquels on n'aurait pas pensé.
Ouais, de toute façon, pourquoi ? Parce qu'on est notre cerveau, il est orienté uniquement sur le circuit de la récompense. C'est-à-dire les premières choses sont dopaminergiques, c'est-à-dire c'est la dopamine, on va aller chercher de la dopamine. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Mais il y a plusieurs hormones aussi qui vont jouer, c'est-à-dire la sérotonine pour l'ego, et aussi l'ocytocine pour se relier aux autres. Et en fait, le cerveau est en permanence en train de rechercher ça, parce que il va combattre aussi entre guillemets quelque chose quand on est tout seul face à soi-même et qu'on fait rien, on va créer du cortisol. Et en fait, on va rentrer dans une sorte d'état dépressif. Et ça, c'est ça, c'est en fait une lutte en permanence pour la survie. Et la survie, c'est justement d'aller vers de la récompense ou d'aller vers des choses, parce que sinon on va faire beaucoup de noradrénaline et du cortisol qui va épuiser l'organisme, tu vois. Donc c'est pour ça aussi peut-être que des personnes vont chercher à aller faire des défis, à aller chercher à aller faire du sport, etc., pour aller chercher ces récompenses qui peut-être ne la trouvent pas dans la société, dans leur travail. Parce qu'ils vont trouver une zone de récompense, et notamment il y a 4 hormones, hein, la dopamine que je t'ai dit, qu'on peut trouver, mais sérotonine, ocytocine, mais aussi les endorphines. Et les endorphines, il n'y a que dans le sport qu'on va les trouver. Tu vois ? Donc on va en trouver une quatrième. Si les autres, on n'arrive pas à vraiment se relier dans le boulot, et la dopamine, on n'arrive pas vraiment à la trouver, on va aller chercher plus loin encore cette zone de récompense. Ça, c'est encore un sujet.
Ouais, épisode 5. Bon, on va continuer dans la rigolade. On va parler de chaleur. Comment se fait-il que certains supportent bien la chaleur et d'autres non ? Et si je prends mon cas, avec l'âge, je supporte de moins en moins la chaleur. Mmh. Et attention, ne me dis surtout pas que ça a un rapport avec le pourcentage de masse grasse. Je pourrais me vexer.
Si tu veux, on est au balbutiement de notre étude sur la chaleur à La Réunion. On a créé une start-up là, qui s'appelle Eruption avec deux médecins, Nicolas Bouscarène et Bruno Lemarchand, à La Réunion. Et c'est difficile d'anticiper déjà sur des recherches qui vont avoir lieu et des résultats qu'on n'a pas encore.
Ouais.
Et c'est pour ça, parce que finalement, il y a des études qui ont été faites, mais... c'est peut-être encore assez faible pour finalement apporter des éléments de vulgarisation et des choses toutes dites et toutes faites pour l'entraînement. On peut avoir des pistes, effectivement, en tous les cas, Benoît Racinet qui travaille au Qatar nous le dit, hein, c'est que on le voit bien, dans les épreuves, on a vu que ce soit au Championnat du monde d'athlétisme à Doha ou aux Jeux Olympiques, il fait souvent très chaud et on voit bien que c'est l'ennemi du sportif. La chaleur, c'est vraiment l'ennemi, plus que le froid. Ouais. C'est quand même assez paradoxal, mais le froid, on le supporte mieux, mais la chaleur, il y a un degré de thermorégulation qui est très dangereux pour l'organisme. Et justement, on permet quand même, malgré tout, alors qu'on ne le faisait pas dans les années 80, je me souviens, de courir au-dessus de température sous 30 degrés un marathon, et maintenant on se le permet, quoi. Il y a quand même eu des comportements nouveaux, c'est-à-dire que peut-être que les épreuves justement d'ultra, etc., on s'est dit bon, allez, on y va, on fait. Ou alors il y a l'aspect commercial et médiatique, Mais on met les individus parfois en danger. Et c'est ce qu'on veut nous voir, c'est-à-dire que, ok, voilà, vous allez faire une épreuve avec 30 ou 32 degrés, avec un taux d'hygrométrie à 80, bah voilà, il y a ce risque-là, ces risques-là. Et encore une fois, toi, tu dis que tu ne supportes pas, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure dans l'alimentation, quelque chose de très individuel. C'est-à-dire, tes cellules, elles ont été habituées, en fait, peut-être à un moment donné, dans ta jeunesse, à un certain climat, est-ce qu'elles sont adaptées à certaines conditions et est-ce qu'à un moment donné, tu as fait le travail pour adapter aussi aux conditions de chaleur, par exemple, ou de froid? C'est le cadre de pas mal de mouvements. On voit notamment le versant qu'on voit beaucoup suite à un livre qui s'appelle « Antifragile » de Nicolas Taleb, qui des gens prennent des douches froides, par exemple, tu vois, tous les jours, parce qu'ils vont aller faire des épreuves difficiles, et puis ça va aussi stimuler leur cerveau. Et voilà, en fait, de casser la routine et faire de nouvelles choses pour l'organisme. Donc on peut, si on prend des douches froides, on pourrait aussi aller dans des conditions de chaleur pour s'habituer en fait à des chaleurs très humides. Est-ce que le corps va s'adapter? C'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir, voilà, un peu les limites, parce qu'on dit on peut sortir sa zone de confort, sauf qu'il y a eu on le voit bien, il a fait très chaud au marathon des sables, là, tu l'as vu, et malheureusement, il y a eu un décès d'un concurrent, assez jeune d'ailleurs, un arrêt cardiaque. Alors, est-ce que c'est dû à la chaleur? On ne sait pas, mais il y a quand même des probabilités parce que, et a priori, il y aura un virus, etc. Mais le virus, est-ce qu'il n'est pas lié à la chaleur, etc. Voilà. Il faut être très, très vigilant, en fait. Quand on faut émettre des hypothèses, essayer de vérifier ces hypothèses. Et là, je pense que sur la chaleur, ça va être important de faire des expériences scientifiques. Vraiment. On n'est pas encore totalement sûr de certaines choses.
Ça me fait sourire quand tu me dis émettre une hypothèse et vérifier cette hypothèse. Mmh. Récemment, j'ai regardé un documentaire sur les partisans de la Terre plate. Il y a un passage du documentaire qui m'a littéralement, pardon pour l'expression, troué le cul. Ouais. Donc, ils sont convaincus que la Terre est plate. Et pour vérifier leur truc, en fait, il y a un genre de rayon laser qui permet, donc quand la Terre tourne, elle pivote en plus sur, je crois, 12 ou 16 degrés, je ne sais plus.
C'est ça.
Et il y a un mec qui dit, regardez, ça c'est un mini-globe, et quand on le fait tourner, la Terre s'incline, et on peut mesurer ça avec un rayon laser, un truc qui coûte super cher, et malheureusement, comme ça coûte cher, on ne peut pas l'acquérir, donc on ne pourra pas montrer que la Terre est plate, on ne pourra pas montrer que c'est un vaste mensonge. Plan suivant, un membre de la communauté des platistes allonge les thunes pour acheter ce matériel, ils font les essais, et ils tombent sur le chiffre de 16 degrés ou 12, je ne sais plus, je crois que c'est 16. Et là, quelle est leur réaction? Imagine, donc, si on suit ton truc, prendre une hypothèse, la vérifier, là, ils se rendent compte que toute la communauté scientifique dit que c'est 16 degrés et eux ne sont pas d'accord. Ils tombent sur 16 degrés. Devine ce qu'ils disent.
Ah bah, à mon avis, ils disent quand même que la Terre est plate, non?
Eh bien, on est tombé sur le chiffre de 16 degrés.
C'est ça.
Eh bien, on n'accepte pas ce résultat.
C'est ça.
Et après, s'ensuit une série d'expériences pour montrer, non pas qu'ils ont foiré leur expérience, mais qu'eux ont raison. Donc, ils essayent. C'est démentiel. Moi, j'ai coupé à ce moment-là parce qu'il était 23h, j'étais fatigué et en plus déprimé d'avoir vu ça. Donc, voilà.
Pour conclure. Excuse-moi par rapport à ce que tu évoques, mais c'est très, très important même pour ta communauté. Hein. C'est-à-dire que je pense que la communauté, si elle écoute ton podcast, c'est qu'ils ont soif aussi de connaissances et de s'approprier des données. Donc, et s'approprier des données, c'est quoi? C'est aller justement collecter, faire le tri des informations, de voir quelles sont les plus intéressantes, importantes, etc. pour soi, et surtout de les déconstruire aussi. Les déconstruire pour les reconstruire après. En fait, là, c'est d'aller voir ce qu'on appelle sur les biais cognitifs. Tous les biais cognitifs, il y a un très bon ouvrage qui s'appelle « Notre cerveau nous joue des tours ». C'est Moubecker. C'est Albert Moubecker qui a écrit ça, un chercheur justement là-dessus. « Notre cerveau nous joue des tours ». C'est déjà un petit bouquin sympa, déjà pour une première approche, justement pour voir nos biais cognitifs. On est souvent bourré de biais, quoi. Le biais de disponibilité, c'est comme ça. Et Voilà, c'est quelque chose de conscient, mais qui revient de nos routines inconscientes. Et finalement, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que on a tellement des biais qu'on veut tellement dire que c'est vrai qu'on va aller chercher même des hypothèses pour dire que c'est vrai, quoi. Mais on peut tout faire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de déconstruire pour en discuter, débattre, avoir de la nuance. Et... Parce que la connaissance, elle évolue tout le temps. Elle évolue en permanence. Tu vas sur PubMed, tu as des articles scientifiques tous les jours. Donc, et c'est ça qui est bien, justement. Tant mieux. Donc, c'est pour ça que moi, je dis attention à la méthodologie, attention aux méthodes, allez prendre des informations, celles qui vous conviennent, qui vous confortent dans ce que vous faites, et puis par contre, débattez, et puis essayez de prendre du recul et de la distance aussi, parfois. Voilà.
Bah, c'est pas facile, tu vois, c'est con comme exemple, mais ça me rappelle l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et sa reconstruction. Donc, elle a cramé, ok, c'est très triste. Et quand est arrivé le moment de sa reconstruction, tollé général, un architecte avait émis un plan super audacieux, super moderne. Non, surtout pas, il faut la refaire comme elle était à l'identique. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'on a envie que les choses restent telles qu'elles sont, un petit peu comme pour se rassurer finalement, parce que, bon, on a envie que les choses restent indéfiniment telles qu'elles sont, parce que nous, on n'est pas éternels et à un moment donné, on va partir. Et on a envie que les choses restent un petit peu comme ça pour se donner l'impression que même si nous, on s'en va, ben, il en reste un petit morceau quand même parce que la cathédrale, elle est encore à l'identique. Ouh. Mais tu le sais comme moi, t'es né à Chartres, la cathédrale de Chartres, elle a été cramée 6 fois, elle a été reconstruite 6 ou 7 fois. Bah, rien ne reste, tout évolue, tout change. Donc, il n'y a aucune raison que les connaissances n'évoluent pas, que le langage n'évolue pas et que les cathédrales ne brûlent pas.
Ouais, je crois qu'après, effectivement, on est de passage et on a toujours envie d'être messager d'un petit truc, quoi. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'être messager de la connerie, pour résumer.
Oh merde. Bon, attends, là c'est le moment pour moi d'une énorme remise en question. On va parler d'hyponatrémie, si tu veux bien. ça fait le lien avec la chaleur, parce qu'on dit toujours quand il fait chaud, faut boire, et puis voilà. Mais du coup, l'hyponatrémie, qui est le pendant opposé, vas-y, je te laisse développer.
Bon, pour résumer, pour pas trop, si tu veux, être redondant par rapport à tout à l'heure, par rapport à l'estomac, on l'a évoqué dans le début. Ben, l'estomac, ça se passe dans l'estomac, en fait. C'est-à-dire que l'hyponatrémie, c'est ce qui est arrivé, en fait, si tu as regardé les films du Moyen-Âge ou des films d'espions ou d'espionnage, etc. Ou alors, il y a des gens qui sont torturés. En fait, ils font boire. Ils vont boire des quantités d'eau énormes. Et ça, c'est un des pires supplices. Parce qu'en fait, c'est une noyade de l'intérieur. Tu vas mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans l'estomac. Et l'estomac, en fait, comment il va réagir? C'est-à-dire que tous les sucs gastriques et tous les sucs, en fait, vont être dilués. Donc, tu vas plus avoir de sodium, notamment. Et le sodium, on sait qu'il est important. La pompe à sodium dans le muscle, par exemple, pour la contraction musculaire. Donc, c'est important d'en avoir, etc. Donc, il y a une dilution énorme. Et au bout du compte, bah, c'est une noyade interne, tout simplement, l'hyponatrémie. C'est-à-dire que...
Donc, c'est trop boire pour nous. Pour nous, exactement. Tout simplement, c'est trop boire. Ce n'est pas de la torture à Guantanamo.
Non, mais trop boire, en fait, il y a eu des décès, notamment chez des militaires, ou une dame qui faisait des triathlons. Il y a eu des décès, très, très peu, mais il y en a eu. Voilà. En fait, c'est une noyade de l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, tu te noies complètement et l'organisme ne peut plus diffuser, si tu veux, faire diffuser les liquides. C'est-à-dire que ça remonte, quoi, et en fait, il y a vraiment... et c'est ça l'hyponatrémie. Et en fait, après, il y a des conséquences énormes sur le rein. Tu peux t'imaginer, puisque après, il y a un effet sur les néphrons. Je vais énumérer, mais c'est les prostaglandines, voilà, qui sont touchées. Et si tu veux, en plus, les gens souvent prennent des anti-inflammatoires même. Allô? Oui, tu m'entends, c'est bon.
On a été un petit peu coupé, mais c'est pas grave, c'est parfait.
Ouais, des fois, il y a ici à La Réunion, tu as des changements au niveau de l'électricité, tu sais, tu as des hautes tensions, des bas de tension qui errent. Donc ça peut arriver. Mais peut-être qu'on est écouté aussi, hein, parce qu'on a parlé d'espionnage et tout ça. Donc... Mais voilà, c'est un effet sur l'espionnage.
Je ne suis pas parano, mais je sais très bien qu'on m'écoute. Hein.
C'est ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, ça a un effet sur les reins. Et les personnes, malheureusement, plus souvent, il y a de la douleur dans l'effort, etc., vont prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qu'on appelle les AINS. Et ça a un effet doublon. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il peut y avoir vraiment des effets délétères. Parce que ça va jouer sur les prostaglandines. Ça veut dire que ça va complètement arrêter le filtrage des reins. Tu peux imaginer que quand il n'y a plus de filtrage, c'est très dangereux et on peut après avoir des gens dialysés. Donc en fait, l'hyponatrémie démarre par trop boire. Il faut boire en petite quantité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais trop boire d'un seul coup. Et tu sais, ça me rappelle les cours de sport qu'on avait vécu avant. C'est-à-dire, et on y va. Et en fait, après, on gloglote. Hein. J'appelle ça glogloter. Tu sais, tu te gloglotes. Voilà. Généralement, c'est un signe que tu as trop bu.
Ouais. Mais non, c'est pas marrant du tout. C'était une technique de torture et on la voit très clairement dans le film Zero Dark Thirty. Ouais. Qui raconte la traque de Ben Laden. Et c'est les toutes premières scènes et on voit un gars se faire torturer.
Tout à fait.
Et c'est assez dingue de se dire qu'on peut torturer à un point aussi élevé avec juste quasiment un seau d'eau.
Et c'est de l'eau pure.
Avec un entonnoir.
Et c'est de l'eau pure. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, il vaut mieux boire des petites quantités d'eau avec des petites choses dedans. C'est-à-dire, ça peut être un petit jus de citron, un petit peu de sodium, un peu de... Là, l'estomac va mieux apprécier. Parce qu'en fait, quand tu vas boire de l'eau pure, finalement, ça va, je veux dire, ça va avoir un effet assez particulier sur les sels minéraux dans ton estomac.
Bon, Eric, j'ai une question piège.
J'aime bien.
je ménage mon effet. Peut-on ne pas dormir ? Je ne me suis pas foulé, hein. J'ai repris les thématiques du congrès de Caen où tu vas dans 2-3 semaines, donc j'ai repris la même terminologie. Peut-on ne pas dormir?
Ça dépend où, et ça dépend quand.
Et avec qui, non? Ça marche aussi.
Exactement. tout dépend du tout est contextuel.
Exactement. Donc,
mais dans une épreuve, ou alors à l'entraînement, ou alors pendant pour aller chez toi.
Bon alors, disons. On va placer ça plutôt dans un contexte de course. Ouais. Est-ce qu'il est réellement possible de ne pas dormir pendant 3 jours?
Alors, le record du monde...
Sans être sous en fait, hein, évidemment, sinon
bien
c'est
sûr.
Pas du jeu.
Le record du monde, tu connais?
Non.
C'est 11 jours sans dormir.
Oui, mais il faisait quoi?
Rien, mais...
Rien oui, mais quand même.
Mais quand même, essaye de ne pas... Alors, un deuxième, on a évoqué la torture par l'eau, oui. La torture par le sommeil, c'est la deuxième. En fait, c'est les deux pires que tu m'évoques là. Tu fais la totale en fait. C'est-à-dire que le sommeil, c'est terrible.
Ouais. C'était une méthode utilisée aussi, de toute façon, parce que c'est ce qui implique de l'anxiété, ce sentiment de reddition, donc de se dire c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, je balance tout le monde. Et c'est ce qui amène le désespoir. Donc ça pousse les torturés à lâcher leurs sources et à lâcher leurs complices.
Alors moi, si tu veux, je repartirai effectivement de ta question pour dire justement pourquoi il est important de dormir. Tu vois ?
Alors vas-y.
Voilà. Il est important de dormir parce que c'est le seul moment où ton cerveau se reconstitue et refabrique vraiment tous les circuits neuronaux. C'est-à-dire, tu as mis en mémoire des choses... Dans la journée, c'est une mise en mémoire dans tes cellules. Il y a des petites, des petits endroits qui vont. Alors, sur la mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a des zones dans les lobes qui se situent à certains endroits et qui vont collecter en fait tout ce que tu as fait dans ta journée. Et si tu veux, si tu ne dors pas, en fait, ton cerveau ne peut pas les mettre en mémoire. Il ne se repose pas, en fait. Et c'est là où c'est dangereux parce que, si tu veux, ça ne fait pas un reset. au niveau neuronal. C'est-à-dire que, d'ailleurs, même en philosophie, il y avait quelqu'un qui disait ça, un philosophe qui lui avait émis l'hypothèse que de ne pas dormir, c'est terrible, parce qu'en fait, tu es en continu. Imagine que tu ne dormirais pas. Tu vois, enfin, on peut s'imaginer de ne pas dormir. C'est-à-dire que le sommeil n'existerait pas. C'est assez, ça fait assez peur, quoi. C'est assez vertigineux, quoi. C'est-à-dire qu'en permanence, si tu veux, tu es un robot, en fait. On parlait d'intelligence artificielle, mais en fait, le sommeil est réparateur, justement, du cerveau, de toutes les zones en mémoire, et finalement, va permettre aussi de restabiliser tout ce qui est le versant au niveau émotionnel, au niveau cognitif, la reconstruction après cognitive, etc. De remettre un petit peu un reset aussi sur ton cortex préfrontal qui a beaucoup travaillé. Donc, notamment le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est des cycles d'une heure et demie, c'est-à-dire que tu vas avoir quand tu vas t'endormir, tu vas commencer à voir des images, etc. Hop, tu tombes dans un sommeil profond. Et souvent, les derniers sommeils, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, avant de te réveiller, là, tu as beaucoup de rêves. Ça veut dire que ton cerveau se remet en fonction. Tu vois. Mais le sommeil profond, il est fondamental. Et le sommeil profond, normalement, c'est des cycles d'une heure et demie. Mais quand tu es énormément fatigué sur une épreuve d'ultra, on l'a vu avec les marins, ils ont fait des expérimentations, justement, où on pouvait voir un quart d'heure à une demi-heure pouvait suffire d'avoir des cycles de sommeil profond pour reconstituer.
Voilà. Ce qui nous amène donc à l'usage des micro-siestes.
Exactement.
Donc, tu nous amènes sur les marins. Mmh. Et si je reprends les termes de Conrad Coleman qui m'avait expliqué ça, c'est un travail pas biphasique, mais je ne sais plus comment, un nom compliqué, spécial compte triple, Scrabble hivernal.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas forcément souvenir du mot, mais je vois et je l'ai déjà employé. Mais ce qui est important de dire finalement, c'est que à un moment donné, on n'a pas forcément le choix parce qu'on est dans une épreuve et que là, on est sur de la survie en fait. Et des épreuves, des traversées en bateau, etc., c'est de la survie. Si tu t'endors, ta vie est mise en danger. Donc, il faut bien mettre en place un process pour survivre et en même temps survivre aussi de ne pas mourir de sommeil. Quoi. Donc, la seule solution, c'est qu'à un moment donné, il faut reposer le cerveau. Et comment on repose le cerveau? On a pu voir que, alors peut-être pour certains, ça va être une demi-heure, d'autres, ça va être une heure. Hein. Et ça peut se mesurer avec l'expérience, en testant, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, les athlètes de haut niveau, sur un ultra-trail comme le Mont Blanc, n'ont pas ce problème-là. Eux, ils vont faire la première nuit, mais ils vont arriver entre 20h et 24h. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème va se poser, par exemple, là aussi, pour le Grand Raid, il y a 64h. Là, il y en a qui vont faire 3 nuits. Donc là, si à partir de la deuxième nuit, tu ne commences pas, et c'est avec la fatigue en même temps, tu ne commences pas à te poser et à faire du sommeil, c'est très compliqué. C'est très compliqué et on commence à avoir des phénomènes hallucinatoires. Donc, tu es en fait dans une sorte de sommeil paradoxal puisque tu luttes du sommeil profond. Donc, tu vas avoir plein d'images. Et là, tu es entre le rêve et la réalité. C'est pour ça que des personnes vont faire des hallucinations, soit des choses négatives, soit des choses positives. Il y en a qui vont aller... On a vu un film sur la Barclay samedi soir, là. Le gars, il parle, il voit sa mère, quoi, en chair et en os. Voilà. Moi, j'ai vu des gars ici voir une voiture en plein cirque de Mafat. Ah, j'ai vu une Fiat 500. Excuse-moi, j'ai dit la marque parce que c'est ce qu'il avait vu. Mais, ou alors une meute de loups, ou alors sa famille, ou son père qui était décédé il y a 3 ans. Le cerveau, il est chimique. Hein. Il envoie des ondes chimiques, des choses et des images. Et quand on est extrêmement fatigué, voilà. On est entre le rêve et la réalité, et c'est le phénomène hallucinatoire.
Alors, je ne sais pas si tu as eu le temps de l'expliquer, de l'écouter, pardon, mais tu m'as avoué être un auditeur, un néo-auditeur fidèle. Et le dernier, c'était avec Maël Jouan, donc, qui a abandonné cet été sur le Tour des Géants. Et il a un petit peu poussé les manettes et il a fini par abandonner, justement, avec. Il a eu un instant de lucidité entre deux hallucinations, disons. Est-ce que. Et c'est exactement en fait ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qu'il m'a expliqué. Il voyait, il était un petit peu sous LSD dans les montagnes, donc ça commençait à devenir bizarre. Il a pris la décision d'abandonner. Est-ce qu'on a quand même facilement encore à ce moment-là cette lucidité de se dire non, là ça va pas du tout, j'ai vu une Fiat 500 dans le ciel, a priori c'est pas logique.
En fait, la lucidité, ouais, c'est une perte de lucidité quelque part, hein, mais ce qu'il faut, c'est conserver, en fait, ton cerveau, il va rétrécir un peu. Bon, des fois, certains, il est très rétréci, mais sans courir. Mais dans la course, dans l'ultra, le cerveau, en fait, on est encore une fois sur la survie. C'est-à-dire qu'il va aller à l'essentiel, il est sur le bouton survie. Tu le pousses, tu le fatigues, donc il va enlever des boutons. C'est comme un bloc central. Et il voit que tu as des turbines, des machins, des choses. Il va en éteindre d'autres. Il va moduler, baisser la tension sur certains, etc. C'est normal. Et sur le sommeil, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des signaux. Il faut que je dorme, mon pote. Hein, tu vois. Donc, on est pas loin du rupteur. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que on est tous différents et sensibles, plus ou moins sensibles au sommeil. C'est là où aussi, quand tu vas faire une épreuve, comme le tour des géants, le premier va mettre 75 heures et j'ai appris qu'il avait dormi des fois qu'une heure ou voire presque pas du tout, quoi. C'est impressionnant. Mais la personne qui va mettre 100 heures, tu vois, enfin, elle va pas dormir beaucoup, mais il faut se préparer à ça. C'est-à-dire que à un moment donné aussi dans sa préparation, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à un manque de sommeil? Moi, j'y crois pas. Faut plutôt faire justement des cures de sommeil, bien bien dormir avant, auparavant. Et que finalement, il faut se mettre un process en cours, c'est-à-dire que dire que je vais dormir à un moment donné, je sens que la fatigue arrive, je me pose une heure, je mets un réveil, je fais une heure, faut par contre quelqu'un te réveille, ou que toi tu puisses te réveiller, parce que tu peux dormir 6 heures, et c'est ce qui arrivait à un gars ici, j'avais préparé, il pensait avoir dormi une demi-heure, il en avait dormi 6 ou 7. Tu vois? Donc, faut se faire réveiller et repartir, tu vois. Enfin, donc, le truc, c'est que ça, en amont aussi, ça se prépare. C'est-à-dire, mais aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il a vécu ça, c'est une nouvelle expérience pour lui et il a appris des nouvelles choses, quoi. Tu vois, donc, c'est intéressant.
Ça doit être génial de se réveiller au bout de 6 heures en ayant l'impression d'avoir dormi qu'une demi-heure ou une heure. Il doit y avoir un effet de déconnexion totale ou limite, tu sais plus où t'es, tu sais plus comment tu t'appelles. Ça doit être génial.
Ouais.
Lui, il est peut-être un peu dégoûté parce qu'il a passé la ligne, tout le monde avait remballé, donc peut-être que c'est vexant.
À mon avis, il fait un peu la gueule parce qu'il devait faire un chrono. il voulait faire dans les 35 heures au Grand Raid, tu vois. C'était dit une demi-heure, une heure, et ça suffira, et je pourrais faire 35, 36 heures. Voilà, donc 6 heures dans le museau, c'est un peu dur. effectivement, ce cadre-là, si tu veux, de faire des épreuves comme le Tour des Géants, 330 km avec 20 mètres, c'est sûr que faut déjà se projeter en se disant qu'effectivement, le sommeil, ça va être très très difficile, quoi. Parce que les conditions aussi dans lesquelles on est, est-ce qu'on est capable de s'adapter aussi à dormir n'importe où? Non. On ne peut pas dormir dans le froid ou des conditions de bruit. C'est difficile. Mais, tu vois, par exemple, sur la Barclay, un des finishers, des 15 finishers, depuis 1986, c'est quand même, hein, 200 km, il dit à un moment donné, je suis dans le cinquième tour. Tu sais, il y a 5 tours à faire. Je suis dans le cinquième tour. Je ne veux pas spoiler le film, mais c'est important, c'est intéressant. Et il dit, pour réussir, en fait, je sais que si je me mets j'ai besoin de dormir. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que je me mette un quart d'heure de sieste, 20 minutes. Sinon, je n'y arriverai pas. Mais il faut que ça soit un quart d'heure, pas plus. Le problème, c'est qu'il dit, si je vais m'endormir, je suis tout seul, je n'ai personne, me réveiller, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais aller en haut de la crête, là où il fait le plus froid, là où il y a le brouillard, là où il y a la flotte, et je vais dormir. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas rester dans le confort et que je vais pouvoir me réveiller. Il a dormi, certainement,
suffisamment.
Un quart d'heure suffisamment, ce qu'il lui fallait, mais dans des conditions pitoyables pour qu'il puisse se réveiller et repartir. Et il a terminé les 5 tours.
Donc, pour éviter l'effet Gary Robbins et être disqualifié pour 6 secondes.
C'est ça.
Mais j'ai le bouquin juste à côté de moi. Hein, donc, d'ailleurs, si tu as l'info, c'est donc le livre Les Finishers.
C'est ça.
Faut que j'envoie un message à une copine pour qu'elle l'envoie à son mec, pour qu'elle l'achète à son mec. Parce que même lui, il ne savait pas qu'il existait. Et c'est une grave erreur. Et tout à l'heure, tu parlais de prendre des douches froides. Ouais. C'est plusieurs témoignages dans le bouquin, notamment John Kelly, qui explique qu'il s'était vraiment mis dans ces conditions-là.
C'est John Kelly que je parle. C'est lui qui dort là-haut. C'est John
Kelly. Il s'était mis dans des conditions d'inconfort.
Je ne vais pas spoiler, mais tu l'as dit donc.
Et moi, ce que j'aimerais savoir, tu vas pouvoir spoiler à ton tour si ça t'éclate. Est-ce que tu as l'info sur la disponibilité du film hors site de l'équipe? Est-ce qu'il va être sur une plateforme
Ouais, certainement, mais pour l'instant, je sais pas trop. Je sais que j'étais avec Frédéric Berg il y a 2 jours. Ouais. Ils sont en plein dedans, mais j'ose espérer qu'à un moment donné ça va sortir sur une plateforme.
Pareil pour le film de Ludo, est-ce que tu sais quand il va être dispo, parce qu'il a l'air génial?
Très difficile, parce qu'en fait il est en négociation, et là, si tu veux, c'est des aspects commerciaux qui m'échappent.
Ouais.
C'est vraiment avec eux que avec Andy Collet, son frère, etc. Mais je pense que de toute façon, il y a tellement de demandes qu'à un moment donné, ça va sortir à grand public.
Bon, écoute, je lui poserai la question quand je lui demanderai comment interviewer Kylian Jornet. Comme ça, j'aurai deux informations qualitatives sous le coude. Est-ce qu'on peut, alors tu me l'as un petit peu dit, Maël m'en avait parlé la semaine dernière, mais j'attendais de t'avoir pour avoir des informations plus précises. Est-ce qu'on peut vraiment stocker le sommeil d'une certaine manière?
Non, on ne peut pas. C'est difficile de faire du stockage de sommeil parce que finalement, a priori, entre guillemets, même trop dormir n'est pas bon. C'est-à-dire que le corps a besoin d'un certain quota et on est tous plus ou moins sensibles à des cycles. Voilà, donc certains, ça va peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, mais on va voir rarement, si tu veux. Alors, il y avait une étude qui avait été faite avec 4 profils, je ne sais plus, il y avait différents trucs, il y avait l'ours dedans, enfin, c'est des animaux suivant le sommeil. Mais ce qui est au-delà de ça, au-delà des modèles, c'est que on est plutôt plus ou moins gros dormeurs, voilà, pour résumer. Et on a un quota. Moi, je sais que, par exemple, je suis entre 7 et 8 heures. Quand je fais 5 heures, voilà, je sens que c'est complexe, va falloir que je rattrape sur des
ronchons.
Oui, voilà. C'est-à-dire que mon cerveau n'a pas complètement assimilé. Et donc, automatiquement, je repousse, si tu veux, cette assimilation. Donc, finalement, il fonctionne moins bien. Sommeil est un élément fondamental de l'apprentissage. Ceux qui réussissent, t'inquiète, dorment. Ils disent qu'ils ne dorment pas, mais ils ont quand même leur quota de sommeil. Moi, j'en suis convaincu. Il faut faire attention. Moi, quand j'entends par exemple dans le travail dire et ça a été terminé et c'est une très bonne chose, c'est-à-dire envoyer des mails apparaître à 2h du matin, etc. Moi, le mec qui m'écrit ça, je dis mais voilà, pourquoi tu m'écris à 2h? Dors au lieu de travailler à cette heure-là, quoi. Enfin, tu vois, arrête de te vanter, en tout cas, c'est pas à tout le monde que tu fais du travail à 2h. Moi, je dors à cette heure-là, donc laisse-moi tranquille, quoi. Pour moi, c'est justement le fait de se vanter de ne pas dormir, c'est peut-être d'être inefficace au travail. Parce qu'on vient de l'expliquer, justement, le sommeil est un moyen vraiment de reconnecter vraiment ton cerveau, de vraiment mieux travailler derrière, d'être très efficace et dans le sport. Donc, c'est pour ça que l'habituer finalement à dire à ne pas dormir, c'est pour moi une grosse connerie. C'est plutôt justement dormir correctement pour être prêt mentalement à supporter justement le sommeil le jour J. C'est ça.
Et si on reprend la stratégie Barclay, je m'arrête un petit peu, alors pas forcément dans des conditions déplorables, mais finalement la stratégie micro-sieste, est-ce que c'est pas vraiment une des meilleures stratégies? Ou est-ce que après tu vas me dire ça dépend, il faut tester, je commence à te connaître,
oui.
ou une combinaison des deux
oui, c'est, ouais. c'est...
Mais la difficulté, tu l'as souligné un petit peu tout à l'heure, c'est comment on peut découvrir ces trucs-là, parce que les athlètes de haut niveau ont pas cette problématique parce qu'ils dorment pas quasiment. Et nous, les clampins, comment on fait pour déterminer ce qui nous convient? Parce que c'est quand même très difficile de se mettre dans les conditions d'un ultra et de dire à femme et enfant, bon, vous inquiétez pas, je reviens dans 4 jours et je vais dormir 15 minutes. Et même moralement, ça va... la course, les événements organisés sont aussi faits pour ça. C'est sortir du cadre de la routine et de faire des choses hors cadre. Ça paraît quand même difficile de se préparer à pas dormir ou d'expérimenter les micro-siestes à la maison avec une sortie quotidienne. Et de rentrer à la maison et de rester dans le salon et de pas dormir. Ça paraît compliqué.
Ouais, est-ce que
comment on fait pour les clampins, comment on fait pour trouver cette phase de test, pour déterminer ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas et ce qui nous convient pas?
De toute façon, tu pourras jamais retranscrire la compétition à l'entraînement. Ça, c'est une première chose. Oui. Que ce soit d'un point de vue physique, mental, etc. Ce jour-là, ce qu'il faut, c'est être programmé à le terminer. Donc, déjà, il y a un travail en amont et on pourrait revenir justement sur un 10 podcasts sur les outils mentaux. Mais,
Quand tu veux. Quand tu veux, Eric.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu évoques, c'est intéressant, c'est une piste intéressante. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, dans la préparation Grand Raid, il y a une phase importante qui démarre au début juin. Alors, je vous rappelle, le Grand Raid, c'est fin octobre. De début juin à mi-septembre, on va dire, c'est une phase de travail spécifique. Je vais dans la montagne au plus possible, c'est-à-dire que j'ai terminé toute la phase de prépa physique, de travail de course à pied, de conditions physiques, etc. Et là, dans cette phase-là, je vais essayer d'aller quand même le plus possible, voilà, en alternant, en fonction de son emploi du temps. Et de temps en temps, mois de juillet, si j'ai le temps, je vais aller me faire 2 jours dans la montagne, si je peux. Je vais me faire un petit séjour, un peu en ermite. Voilà, enfin, je vais prendre ma tente, mon machin, je vais dormir en montagne, etc. C'est peut-être là, c'est intéressant. De voir les choses. Et c'est souvent là que je prépare les gens là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas de dire toute l'année je vais me préparer au sommeil, machin, etc. Je vais enlever mon quota de sommeil. Ça, c'est de la connerie. C'est dire qu'à un moment donné, il faut habituer l'organisme à des conditions particulières, mais peut-être un peu extrêmes. Et le corps, voilà, va retrouver cette adaptation. C'est-à-dire que effectivement, si tu pars un week-end, tu te dis je fais je fais 2 étapes de 12 heures, où, voilà, tu vas pas dormir beaucoup, moins. Donc, le dimanche soir, tu vas être cramé. Tu vas rattraper après tes heures derrière. Mais, tu vois, le corps, il va travailler. Là, c'est intéressant parce que tu es en condition. Mais, de le faire chez soi, enfin, voilà, de combattre le sommeil, de dormir que 4 heures, moi, je pense que c'est une connerie.
Tout à l'heure, on se peut hors ligne avant qu'on débute l'épisode. On moquait les triathlètes. Et je me souviens, fin des années 90, début 2000, quand il y avait encore le défi du Fontanil. Tu te souviens, dans la région grenobloise, donc l'ultra, vraiment l'ultra Ironman du Fontanil. Je me souviens d'un mec qui expliquait que pour se préparer mentalement, il faisait du home trainer le 31 décembre, seul dans un couloir dans le noir.
Ouais.
Est-ce que c'est déjà un niveau assez supérieur? Est-ce que quand tu parles d'adaptabilité du corps, est-ce que il va vraiment s'adapter, ou est-ce que c'est aussi apprendre les sensations qui nous attendent, et déjà vivre un petit peu ces trucs-là en version miniature, et quand ça arrive vraiment sur l'épreuve, se dire ok, je l'ai déjà vécu, certes un petit peu de manière plus limitée, mais au moins de mettre un petit peu un pied dans l'eau froide avant de sauter dans le gros bain de la course.
Tu as résumé en fait.
Une petite anticipation finalement.
Dans tes propos et dans ta question, tu as résumé. D'ailleurs, l'adaptabilité, elle a ses limites. C'est assez particulier comme phrase.
Ça sera le titre de l'épisode, ouais. T'inquiète.
Parce que au bout du compte, on peut s'adapter, mais il faut mettre, comme on dit, comme dans la préparation mentale, je l'évoquais la dernière fois, c'est on met des petits galets, en fait, pour traverser la rivière. On ne va pas faire péter la montagne avec une dynamite pour faire mettre un gros rocher. Ça, il faut éviter. Ce qu'il faut, c'est mettre des galets pour traverser. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va voir, au fur et à mesure Et le corps, il aime ça. C'est-à-dire, il aime des proportions qui sont raisonnables parce que, comme je te l'ai dit, il vit en survie. Si d'un seul coup, tu lui fais un coup, vraiment, ça va pas être évident parce qu'il va pas avoir, si tu veux, certaines habitudes. Et il y a des choses qui vont se passer qui sont pas forcément bonnes. C'est-à-dire qu'il va se mettre vraiment en mode survie. Et il peut vraiment faire vraiment beaucoup de noradrénaline, cortisol, et vraiment te mettre dans des conditions de danger. Et donc, il va te faire abandonner, par exemple. Tu vois. Parce que tu ne seras pas suffisamment adapté. Et c'est souvent ce qui peut se passer, c'est-à-dire dans des épreuves extrêmes, les gars, n'amènent pas progressivement les choses. Et d'un seul coup, voilà. Sauf si on le cherche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on y va et OK. Mais on n'est pas tous fait pareil à la base et on va pas avoir la même adaptation, tu vois. Il y a ce côté aussi mental. Hein. Comme je te le disais, moi, au bout de 3 heures, je me faisais chier. Alors que d'autres, à partir de 10 heures, tu sais, ils commencent à ouvrir l'œil. Bon, quand est-ce qu'on court? Enfin, c'est les mecs qui se réveillent au bout de 10 heures, ça les fait chier d'aller vite et tout ça. Et c'est des bêtes de guerre après 10 heures ou 15 heures. Donc, on n'est pas fait pareil. Quoi.
On va passer sur une thématique qui est reliée à tout ça et qui anime un petit peu les débats, en tout cas pour nous, sur les épreuves très longues type bikepacking, vraiment sur plusieurs jours, entre 5 et 10 jours. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais je dédie la partie sommeil à Laurent Boursette. Je sais qu'il D'accord. écoute et il comprendra. Salut, Laurent. Et il appréciera. Un petit côté aussi à Clément Clisson, qui ont tous les deux souffert du sommeil sur leurs récentes épreuves. Mmh. Est-ce que dans le trail, dans ton expérience, dans tout ce que tu as vécu sur le trail, il a été question à un moment donné d'une réglementation, d'une régulation du sommeil qui a été envisagée ou qui a été mise en œuvre? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est responsable? Ou est-ce que c'est pas juste paternaliste ou équitable? Qu'en est-il d'une... Ouais.
Ou alors, je dirais que sur les épreuves que j'ai vécues, notamment sur des épreuves de 100 miles, on est sur, comme qui dirait, une dose raisonnable. C'est-à-dire qu'on a des épreuves à l'Ultra Trail du Mont-Blanc à 45 heures ou 64 heures. On est sur le domaine du raisonnable. C'est-à-dire qu'on imagine au Grand Raid 64 heures, c'est raisonnable parce qu'on sait que la personne va dormir. Tu vois ? Sur 45 heures, on sait qu'il va pas beaucoup dormir, mais il va faire que 2 nuits. Donc, on est sur quelque chose de supportable. Moi, je dirais, c'est finalement ce que tu évoques, les courses à étapes, où on pourrait pousser les personnes finalement à ne pas dormir. On le voit sur les épreuves, notamment, c'est un peu les combinés, tu vois. Enfin, voilà, c'est kayak, machin. Enfin, ce qu'on appelle, j'ai plus en tête le mot, mais c'est les épreuves outdoor, tu sais, et où on peut enchaîner sur plusieurs jours. Là, je pense qu'il y a, on le voit par exemple, il y a eu le raid. Hein. Ici, il y a un raid.
Oui, le raid.
Ouais. Alors, raid multisport à La Réunion, par exemple, ils arrêtent le soir. Là, donc, quelque part, c'est une volonté de dire, on va vous préserver parce que après, tu vas aller dormir dans ta montagne, dans ton bivouac, etc. Mais on stoppe à un moment donné la course parce qu'on va permettre de dormir. Donc, voilà. C'est là où, si tu veux, dès l'instant où on met en place un règlement qui ne permet pas de ne pas dormir, par exemple, 5, 6 nuits, 7 nuits, on peut mettre en danger. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui ne vont pas dormir. Parce que le fait de... On est sur du mimétisme, et on va se dire, les autres, ils ne vont pas dormir non plus. Et on est sur une surenchère mimétique, c'est-à-dire de dire, moi, si je m'arrête... les autres, ils vont continuer. En fait, pour moi, le sport d'endurance, c'est l'égalité des chances au départ. Donc, si on met une égalité de chances de dormir autant le même quota de sommeil, on ne se prive pas, si tu veux, à un moment donné, de ne pas mettre en danger. Quoi, tu vois, voilà. Je trouve intéressant la démarche aussi d'un organisateur de voir ça. C'est-à-dire, dès l'instant où l'égalité des chances, au départ, elle perdure, on est bon. Mais on commence à mettre des règlements qui peuvent être dangereux parce que, voilà, il n'y aura pas une égalité face au sommeil aussi, hein, à certains, déjà. Mais après, c'est parfois, souvent aussi, ce qu'on voit, c'est les défis personnels. C'est-à-dire que on va aller chercher le record de celui qui va moins dormir. Comme je te disais, faire 500 bornes dans le cul la dernière fois, ça t'a marqué. Mais voilà, faut être très très vigilant par rapport aux défis en fait. Faut qu'ils aient du sens, faut qu'ils voilà. Je pense que quand je crois que t'as aussi notre ami trailer le Vosgien Stéphane Brognard. Son défi, il est pensé. Il est pensé en termes de sommeil, il est pensé en termes voilà, vraiment tout est planifié quand même. Hein. Le mec, il y va pas les mains dans les poches. Hein.
Quand tu parles d'égalité des chances, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais si on prend par exemple, cet été, il y a eu la Race Across France. J'ai fait un épisode avec Clémence qui gagne chez les filles, avec Guillaume, un ex très bon trailer qui s'est remis à la course à pied cette semaine d'ailleurs. Salut Guillaume. Lui, il a fini un petit peu plus loin, mais peu importe. D'autres, comme Clément Clisson, ont été forcés à l'abandon. J'ai fait récemment également Omar Di Felice qui gagne. Mm-hmm. On a là vraiment différents profils. Tu vois, Clément va repousser très loin les limites du sommeil. Omar un petit peu aussi, mais avec l'âge aidant un petit peu plus d'expérience. Là, il s'est passé les deux, trois derniers jours, la Tour Volcano en Italie avec Sofiane Seili, et son gros point fort, c'est de ne pas dormir. Et si je reviens à la Race Across France, Clémence me racontait que déjà, dès le Mont Ventoux, certains ont chuté parce qu'ils s'endormaient sur le vélo. Et là, on n'avait que 300 km dans la course. Donc, c'est quand même très tôt dans la course. Et est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour un organisateur de jongler justement avec ces différents profils de gens expérimentés qui se connaissent parfaitement et qui peuvent résister et le cas échéant prendre la bonne décision en toute lucidité ou au contraire des participants moins expérimentés plus peut-être menés par le mimétisme comme tu disais de vouloir faire comme tel ou tel gars et qui finissent par se cracher au bout de 24 heures dans une descente.
Mais moi je vais te
poser
la question.
C'est un petit peu difficile ça quand même.
Je vais te poser la question, c'est quoi l'objectif de l'organisateur finalement ? Tu vois ?
C'est-à-dire ça, je ne peux pas répondre sans me fâcher avec l'organisateur.
Non, mais tu vois, enfin, pour moi, c'est important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va à un moment donné chercher ? Est-ce qu'on va chercher finalement à mettre les pratiquants dans des conditions un peu extrêmes, mais qui restent quand même une extrême de masse ? Ou est-ce qu'on fait. On met les pratiquants dans des conditions d'extrême de performance ou d'extrême d'aventure. Pour moi, c'est trois extrêmes qui sont différents. Un extrême de masse, c'est l'ultra-trail du Mont-Blanc, c'est le Grand Raid, etc. C'est un extrême de masse, c'est-à-dire c'est l'égalité des chances au départ. On peut, à un moment donné, avoir des postes de ravitaillement, on a les mêmes. On peut s'arrêter où on veut, on a les mêmes. On a des barrières, etc. L'extrême d'aventure et l'extrême de performance, c'est différent. C'est-à-dire que si on va dans une extrême d'aventure, on est sur l'ouverture, par exemple, de nouvelles voies en escalade, enfin en alpinisme, etc. Mmh. Tu vois, on est sur l'extrême de performance, on a déjà des choses qui ont été faites, mais on va essayer de battre ce record, ce temps. C'est-à-dire, j'ai traversé l'Atlantique ou j'ai traversé le désert, il a été fait en tant d'heures, je vais essayer de le faire en moins d'heures. Ça, c'est un défi humain et ça reste dans nos gènes, c'est-à-dire on a besoin de sortir d'une zone de confort et ce qu'on appelle aller chercher des limites. Mais encore faut-il le définir. Dans quel extrême l'organisateur veut se mettre ? S'il est dans l'extrême de performance, on n'est pas dans l'extrême de masse. C'est-à-dire que des règles peuvent être édictées et dire, voilà, là, par contre, les conditions, c'est un peu démerdez-vous, les mecs, hein, parce que on ne sera peut-être pas là pour vous aider là. Et souvent, les défis sont faits d'extrême de performance. Ce que Kylian a fait, par exemple, sur l'Everest, etc., c'est l'extrême de performance. Hein. On n'est pas du tout dans l'ultra-trail traditionnel. Non ?
C'est difficile comme question. Hein. Là, ça anime un petit peu les débats ces derniers temps. Et c'est et à t'écouter, alors que tu as une longue, longue expérience et une perspective très vaste, c'est difficile de répondre à ça, finalement. Que faire avec cette question du sommeil dans l'ultra ?
Ouais, c'est moi. Enfin, je pense que si tu veux sur les épreuves d'extrême de masse, on l'a résolu ça. les gens travaillent, enfin les athlètes, les coureurs travaillent dessus. Ils savent maintenant, ça c'est quand même bien entre guillemets. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, le fait de pouvoir faire des siestes. Les gens dorment 1 heure, 2 heures. Ils savent qu'il faut dormir. Ce qui est plus délicat, c'est les épreuves de la surenchère du long qu'on évoquait, c'est-à-dire un Tour des Géants. Là, on est plus sur un mode trop couru, on marche beaucoup. Mais par contre, il y a une grosse amplification de cette donnée-là, c'est-à-dire du sommeil. Et d'ailleurs, Grégoire Millet a travaillé sur le Tour des Géants et je trouvais ça intéressant. Il s'est rendu compte qu'à un moment donné, le corps, des fois, était même presque moins fatigué que sur le Trail du Mont Blanc. Mais si il arrivait quand même à avoir un petit peu de quota de sommeil, quoi. C'est-à-dire que il se ressourçait en deuxième partie. Des fois, on pouvait être très bien, quoi. Tu vois, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire, il y a une adaptabilité, mais c'est juste résoudre le problème du sommeil, quoi. Tu vois, c'est pas une question parce que il y a une intensité qui est moindre et on peut restaurer quand même, je pense, dans la course. Et d'ailleurs, il y a toute une problématique de restauration. Est-ce qu'on arrive vraiment à restaurer, tu vois, la synthèse protéique et tout ça? Ça, c'est une question que j'ai posée à des gars de l'INSEP qui n'ont jamais su me répondre. Tu vois? On ne sait pas. La synthèse protéique, c'est important. Tu reconstruis ton muscle. Tu vois? Enfin, et est-ce qu'on arrive à le faire dans une épreuve? Moi, je ne sais pas encore.
Eric, on va devoir conclure dans pas longtemps parce que j'ai un truc à 14h15 et je ne vais pas t'immobiliser non plus encore toute l'après-midi, surtout que toi aussi, tu as des échéances. Ouais. Si on parlait un peu, alors pareil, hein, je reprends les thématiques du congrès de Caen, hein, je ne me foule pas trop non plus. Si on parlait de dopage légal en ultra-trail et donc par extension dans nos épreuves, dans nos pratiques ultra et longue distance à vélo, est-ce qu'on peut vraiment parler de dopage légal? Est-ce que c'est pas une antithèse de dire dopage légal?
Il faudrait poser la question, je pense, à mon collaborateur qui est Bruno Lemarchand, qui travaille sur le dopage, mais qui est aussi dans la FLD, hein, l'Agence française contre le dopage. Moi, mon avis, si tu veux, par rapport à ça, c'est que moi, j'entends des podcasts, j'écoute pas mal de podcasts, je regarde sur, notamment un podcast qui s'appelle Biomécanique, tu vois, sur la muscu, etc., dans le domaine où c'est vraiment très fréquent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une école, on va dire, dite naturelle, une école vraiment qui revendique, et le gars, il dit, surtout les gars, prenez pas, c'est de la merde, voilà ce que ça implique, etc. Sauf que le mec, il continue à en prendre, quoi. Il le dit. Donc pour moi, il y a toute une facette, si tu veux, quelque part, d'identitaire, et de transcendance. Je parlais tout à l'heure de la transcendance, je la trouve fondamentale, c'est-à-dire derrière le visage, il y a la transcendance. Ça, c'est vraiment de la philosophie, hein, c'est-à-dire que c'est Lévinas, hein, qui a écrit ça en philo. On a un visage, on dit « ouais, je ne me dope pas, voilà. » Mais au fond de nous-mêmes, en fait, ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir dans notre pratique ce qu'on fait, comment on a envie de le faire, par quels moyens on a envie de le faire. C'est ça qui est fondamental, je trouve, et beau dans un sport. Après, le mec qui fait le choix, moi, si tu veux, je pense qu'il faut garder des valeurs quand même. C'est-à-dire, les valeurs, c'est si on commence à mettre des valeurs et qu'on va autoriser le dopage, on va autoriser à massacrer un peu sa santé. Parce que quand même, c'est prouvé que le dopage, c'est pas si bon que ça, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que les produits, quand même. On le voit bien déjà dans la muscu, encore plus. Les mecs, à 40 ans, des fois, ils sont plus là, quoi. Parce que il y a une incidence quand même hormonale, il y a quand même une grosse prise de risque à prendre des produits. On ne sait pas ce que ça peut provoquer. On sait qu'on va prendre des médicaments, on a vachement amélioré sur la science, mais d'autant plus que le mec, en plus, il n'est pas suivi médicalement, il va prendre des merdes. Voilà, il ne sait pas ce que ça va pouvoir. Je pense qu'il y a une représentation collective du dopage qui est importante. Et après, il y a une conception personnelle. Et moi, pour moi, la transcendance, pour moi, c'est ça, c'est de dire comment on est. Est-ce que mon projet, j'y suis parvenu vraiment sainement et sans me mettre en danger, quoi. À un moment donné, ou alors, je l'affiche et je dis, je veux mourir demain, quoi. Enfin, voilà. C'est quand même un peu con. D'ailleurs, Kylian Jornet en est revenu de dire courir ou mourir. Depuis qu'il a deux enfants, je pense que.
J'espère bien voilà, pour lui.
Voilà, tu prends conscience de nouvelles choses quand tu as des enfants. Tu vois, c'est, au début, tu es un super héros. Et pour être super héros, tu vas prendre tout. Enfin, je ne dis pas que Kylian est dopé, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a une énorme transcendance, qui est capable de. Justement, de montrer, de sortir et de montrer qu'il est capable de faire de grandes choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette idée de dire courir ou mourir, quoi. Moi, ça m'interpelle. Hein? Parce que moi, j'ai failli mourir, tu vois, donc pas envie, quoi.
Tu me l'avais dit, ouais, que tu as eu un accident cardiaque et que tu travailles là-dessus. Et tu vois, bah, je vais te remercier aussi pour... tout à l'heure, je te disais que je cherchais des angles originaux pour faire un épisode avec Kylian. Mmh. Et bah, je viens d'en trouver un, là. Donc, on va parler de vivre ou mourir. Mmh. Ça va être, ça peut être super, super intéressant. Mon petit Eric.
Oui.
Parce qu'entre bosserons, c'est comme ça qu'on appelle. C'est comme ça qu'on s'appelle. C'est comme ça qu'on dit. Alors ça, je sais pas. J'habite pas dans le coin depuis assez longtemps pour vraiment maîtriser tous les dialectes, hein, parce que entre là où j'habite et la Beauce crasseuse, c'est encore un univers différent. Donc je me ménage d'y aller de temps en temps. Je vais te remercier parce que c'était passionnant. On refera un truc, un de ces quatre, sur d'autres thématiques, et notamment le CETO, parce que c'est quelque chose qui nous interpelle tous et qui est à la fois passionnant et extrêmement difficile et extrêmement complexe. Et ça fait partie des trucs qu'on ne peut pas s'approprier simplement en regardant des trucs sur le net et en bidouillant. Donc j'ai bien envie d'avoir quelques réponses tangibles. En attendant, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Donc, on a deux, trois petits points. Pendant une minute, deux minutes, ou le temps que tu veux, tu restes devant ton ordi avec ton micro, tu fais passer le message que tu veux. Tu as un instant pour y réfléchir, tu dis exactement ce que tu veux. Moi, je vais couper ma caméra et mon micro, je sors. Ceux qui me connaissent bien savent exactement ce que je vais faire. D'ailleurs, tu le sais aussi. Et là, je vais m'y précipiter parce que... Ouais. Et ouais, grave. Et puis j'ai un appel à 14h15, donc là il faut que je me dépêche d'aller vider la réserve. Et tu laisses cet onglet ouvert, tu laisses ton ordinateur tourner, tu laisses le truc, ouais. Tu laisses ton onglet. J'en ai besoin moi pour retélécharger les fichiers depuis ton ordinateur. Donc tu laisses tout faire et voilà. Et quand c'est bon, je t'envoie un message. D'accord ?
Ok.
Super. Merci Eric.
Moi, j'ai une petite
à très bientôt.
Minute, c'est ça ?
Salut. Ah ?
J'ai une petite minute, hein, c'est ça.
Ah, mais tu prends le temps qu'il te faut. De toute façon, là, vu l'envie de pisser que j'ai, je vais y passer 10 minutes.
D'accord.
Donc, je reviens tout à l'heure et voilà. Okay. À bientôt. Merci à bientôt. Beaucoup. Tu passes tu fais la bise à Ludo si tu le vois et tu le préviens de mon appel prochain quand il revient de la réunion.
Merci.
Salut.
Bye bye. Ok, bah écoutez, je dois rester un petit peu seul. Et bah, c'est pour vous remercier de m'écouter, de remercier Richard pour ce podcast sur une communauté que je connais un petit peu moins, mais qui, je pense, est une grande famille, la grande famille de l'ultra-distance, la famille de la recherche des extrêmes. Et en fait, voilà, je suis très, très heureux de pouvoir vous apporter quelques éléments. Et j'aurais aimé aussi vous avoir aussi par des questions, des questionnements, c'est peut-être que ça viendra. Alors n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis sur Facebook, LinkedIn, un petit peu moins sur Instagram. Et puis voilà, il y a aussi pas mal de choses sur lesquelles je travaille en ce moment, et notamment sur les neurosciences et le côté mental, parce que je fais aussi de la préparation mentale. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, et notamment le mental et les émotions dans les épreuves d'ultra-distance. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, si le podcast est passé en journée ou en soirée. Et je vous dis bravo pour tous vos défis, bravo pour finalement votre maintien en forme pour réaliser ces défis. À très très bientôt, j'espère, sur le podcast de Richard et le podcast Spotzel. À bientôt toute la communauté. Bye bye.